L'oblat de Huysmans. Chapitre 1. Durtal résidait depuis plus de 18 mois déjà au Val des Saints. Là, de Chartres, où il s'était provisoirement fixé, harcelé par des appétences déréglées de cloître, il était parti pour l'abbaye de Solesmes. Recommandé au supérieur de ce monastère par l'abbé Plon, un des vicaires de la cathédrale de Chartres, qui connaissait le révérendissime de longue date, il avait été aimablement reçu, était resté à diverses reprises plus de 15 jours dans ce couvent, et il en était toujours revenu plus mal à l'aise, plus incertain qu'avant. Il retrouvait avec allégresse ses vieux amis, l'abbé Grévesin et sa gouvernante, Madame Bavoye, réintégrait avec un soupir de soulagement son logis, et le même phénomène se produisait. Il était peu à peu ressaisi par le souvenir de cette existence conventuelle qui s'écartait complètement de celle qu'il avait autrefois vécue à la trappe. Ce n'était plus, en effet, la règle de fer des cisterciens, le silence perpétuel, les jeûnes complets, le maigre ininterrompu, le coucher tout habillé dans un dortoir, le lever à 2 heures en pleine nuit, le travail de l'industrie ou le labeur de la terre. Les bénédictins pouvaient parler, usaient certains jours d'aliments gras, couchaient déshabillés, chacun dans sa cellule, se levaient à 4 heures, se livraient à des travaux intellectuels, besognaient beaucoup plus dans les bibliothèques que dans les comptoirs de marchandises ou dans les champs. La règle de Saint-Benoît, si inflexible chez les moines blancs, s'était adoucie chez les moines noirs. Elle s'était aisément pliée aux besoins dissemblables des deux ordres, dont le but n'était pas en effet le même. Les trappistes étaient plus spécialement préposés aux œuvres de la mortification et de la pénitence, et les bénédictins, proprement dit, au service divin des louanges. Les uns avaient, en conséquence, sous l'impulsion de saint Bernard, aggraver la règle dans ce qu'elle a de plus strict et de plus dur. Les autres, au contraire, avaient adopté, en les assouplissant, les dispositions si accortes et si indulgentes qu'elles recèlent. Le séjour des retraitants et des hôtes se ressentait forcément de cette différence. Autant la réception à la trappe avait été taciturne et austère lorsque, pour la première fois, Durtal l'avait visitée, il y avait déjà de cela 10 ans, afin de se convertir, autant l'accueil à Solesmes, où il était allé dans le dessein de tâter sa vocation, avait été disserte et clément. Il avait profité chez les bénédictins du côté bon enfant de leurs observances. Une liberté presque entière lui avait été laissée pour se lever, pour se promener, pour suivre les offices. Il mangeait avec les religieux, et non plus, ainsi que chez les cisterciens, dans une salle à part. Il n'était plus admis sur la lisière de la communauté et en marge du cloître, mais bien au-dedans, vivant avec les pères, causant et travaillant avec eux. Les devoirs de l'hospitalité, si expressément recommandés par le patriarche, étaient vraiment exécutés à la lettre par les moines noirs. Ce caractère paternel lui souriait dès qu'il était de retour à Chartres. Avec le temps, la vision de Solesmes se décantait, s'idéalisait à mesure qu'elle devenait plus lointaine. « Il n'y a que Solesmes, se criait-il, la seule vie monastique possible pour moi est là. » Et cependant, il devait se rappeler que, chaque fois qu'il avait quitté l'abbaye, et qu'il s'était assis dans la voiture qui le menait à la gare de Sablé, il avait respiré, tel qu'un homme qu'on allège d'un insupportable poids. Et qu'aussitôt installé dans le train, il se disait « Mon Dieu, quelle veine, me voici libre !» Et sans cesse pourtant, il regrettait cette gêne d'être chez les autres, cette délivrance d'heures tracées, sans amusement inopiné, sans tintouin prévu. Il parvenait difficilement à analyser ces jeux d'impression, ces volte-face de sentiments. Oui, certes, s'affirmait-il, Solesmes est en France unique. L'art religieux y resplendit comme nulle part. Le chant y est mûr à point. Les offices s'y célèbrent avec une imperfectible pompe. Nulle part aussi je n'approcherai d'un abbé de l'envergure de Don de Latte et de paléographes musicaux plus ingénieux et plus savants que Don Mocro et que Don Cajun. J'ajouterai encore de moines plus serviables et plus avenants. Oui, mais... Mais quoi ? Et alors, en fait de réponse, c'était un recul de tout son être, une sorte de répulsion instinctive devant ce couvent, dont la façade splendidement illuminée rendait par contraste les communs non éclairés qui en dépendaient plus noirs. Et il s'avançait avec précaution, de même qu'un chat qui flaire un logis qu'il ne connaît point, prêt à détaler à la moindre alerte. Et cela ne rime néanmoins à rien, convenait-il. Je n'ai pas l'ombre d'une preuve que l'intérieur du cloître soit d'un autre style d'âme que celui de la façade. C'est étrange ce qui se passe en moi. Voyons, raisonnons, qu'est-ce qui me déplaît ? Et il se répondait, tout et rien. Cependant, certaines remarques se détachaient en lumière, venaient en avant sur le décor de l'abbaye. D'abord, la grandeur de ce monastère et cette armée de professes et de novices qui lui enlève ce côté intime et charmant que possède un moins imposant reclusage, la trappe de Notre-Dame de Lattre, par exemple. Nécessairement, avec ses immenses bâtiments et la foule de religieux qui les encombrent, Solesmes prend une allure de caserne. Il semble que l'on marche aux offices ainsi qu'à une parade, que l'abbé est un général entouré de l'état-major de son chapitre, et que les autres ne sont plus que de pauvres troubades. Non, on ne serait jamais à l'aise et l'on ne serait jamais sûr non plus du lendemain, si l'on appartenait à cette garnison religieuse qui a je ne sais quoi d'inquiet, de craintif, de toujours sur ses gardes. Et, en effet, un beau matin, l'on peut, si l'on a cessé de plaire, être expédié comme un simple colis au loin, à destination d'un autre cloître. Puis, qui dira la tristesse de ces récréations, de ces conversations surveillées et inévitablement morne, l'agacement produit à la longue par le manque de cette solitude si délicieuse à la trappe et qui est impraticable à Solesmes, où il n'existe ni étang ni bois, où le jardin est plat et dénudé, sans un tournant, sans une fin d'allée où l'on puisse se recueillir, à l'abri des regards, sans témoins, seul. Très bien, reprenait-il, mais pour être juste, il me faut avouer maintenant que si j'accepte la question du site, et encore, sauf moi, tous l'admirent, mes autres griefs sont dépourvus de sens. Comment, en effet, réaliser l'ensemble de Solesmes, la solennité de ses offices et la gloire de ses chants, sans cette masse serrée de moines ? Comment, sans une poigne de fer, conduire une armée de près de 100 hommes, dont les caractères différents, à force de se frotter, s'échauffent. Il est donc indispensable que la discipline soit aussi rigoureuse, plus même, dans un monastère que dans un camp. Enfin, il faut bien aider les autres couvents de la congrégation, plus indigents en sujet, en leur envoyant ceux qui leur manquent, ou un maître des cérémonies, ou un préchantre, ou un infirmier, le spécialiste, en un mot, dont il a besoin. Que ces exils soient redoutés par les résidents de Solesmes, cela prouve qu'ils se trouvent bien dans leur abbaye. Et n'est-ce pas le meilleur éloge qu'on en puisse faire ? En tout cas, ces départs sont la plupart du temps moins des disgrâces que des prêts de maison à maison, nécessités par l'intérêt même de l'ordre. Quant à cette répugnance que je ressens à vivre dans cette foule toujours en mouvement, un père auquel j'en parlais très franchement m'a judicieusement répondu : où serait le mérite si l'on ne souffrait d'être roulé tel qu'un galet sur la plage d'un grand cloître ? Bien oui, je ne dis pas, mais n'empêche que j'aime mieux autre chose. Et Durtal réfléchissait, et se sortait alors des arguments plus valides, des raisons plus péremptoires pour se justifier ses appréhensions. À supposer, se disait-il, que le père abbé me laisse fabriquer mes livres en paix, et consente à ne point s'immiscer dans des questions de littérature. Et il est si large d'esprit qu'il admettrait sans nul doute cette dispense. Cela ne servirait de rien, car je serais absolument incapable d'écrire un livre dans cette abbaye. L'expérience, je l'ai tentée à diverses reprises. Les matinées et les après-midi, coupées par les offices, y rendent tout travail d'art impossible. Cette vie, divisée en petites tranches, peut être excellente pour colliger des matériaux et assembler des notes, mais pour œuvrer des pages, non. Et il se remémorait de désolantes heures où, s'échappant d'un office, il voulait s'atteler sur un chapitre, et le découragement le prenait à l'idée que lorsqu'il commencerait d'être en train, il faudrait quitter sa cellule et regagner la chapelle pour un autre office. Et il concluait : le cloître est utile pour préparer un ouvrage, mais il sied de l'exécuter dehors. Puis qu'est-ce que l'on entend par l'oblature ? Jamais il n'avait pu obtenir une réponse claire. Cela dépend du bon vouloir du père abbé, et cela peut, par conséquent, changer selon les monastères. Mais ce n'est pas sérieux. L'oblature bénédictine existait déjà au 8e siècle. Elle est régie par des règlements séculaires. Où sont-ils ? Personne n'a l'air de le savoir. Le bon vouloir d'un père abbé. Mais c'est se livrer pieds et poings liés à un homme que l'on ne connaît que par ouï-dire, en somme. Et pour peu que celui dans le couvent duquel on s'internerait fût ou vieux et borné, ou jeune et impérieux et versatile, ce serait pis que d'être moine. Car le moine est au moins défendu par des ordonnances précises que son supérieur ne peut enfreindre. Enfin, quelle situation mitoyenne, ni chair ni poisson, que celle de l'oblate en culture, que celle de l'oblate en clôture. Intermédiaire entre les pères et les frères laids, il aurait toute chance de n'être accepté ni par les uns ni par les autres. L'oblature en robe dans une abbaye n'est donc pas enviable. Ah ! Et puis il y aura toujours l'atmosphère lourde et raréfiée du cloître. Non, ce n'est décidément pas mon affaire. Ce qu'il se l'était répété deux fois, cette phrase. Et il n'en retournait pas moins à Solesmes, car, aussitôt réinstallé à Chartres, la nostalgie le repossédait de l'office divin, de ses journées justement très bien scindées par la liturgie, pour ramener l'âme vers Dieu, pour empêcher ceux qui ne travaillent point de trop voguer à la dérive. Il avait à Chartres, le soir, l'impression qu'il n'avait pas prié, qu'il avait dilapidé son temps. Et la hantise des chants entendus, lui revenant par bribes à la mémoire, entretenait son désir de les écouter encore, attisait, avec le souvenir de splendides offices, le regret de les avoir perdus. Jamais il n'avait si bien compris la nécessité de la prière en commun, de la prière liturgique, de cette prière dont l'Église a déterminé le moment et arrêté le texte. Il se disait que tout est dans les psaumes, les allégresses et les contritions, les adorations et les transes, que leurs versets s'adaptent à tous les états d'âme, répondent à tous les besoins. Il se rendait compte de la puissance de ces suppliques agissant par elles-mêmes, par la vertu de l'inspiration divine qu'elles recèlent, par ce fait qu'elles sont celles que le Fils formula pour être offertes à son Père par de fidèles préfigures. Maintenant qu'il en était privé, il éprouvait une défaillance de tout son être, une impression d'implacable découragement, d'accablant ennui. « Eh oui, disait-il à son confesseur, l'abbé Grévesin, Et oui, je suis obsédée par les vieux fantasmes. Je me suis inoculé le savoureux poison de la liturgie, et je l'ai dans le sang de l'âme, et je ne l'élimine point. Je suis le morphinomane de l'office. C'est stupide ce que je vous raconte, mais c'est ainsi. Et l'abbé de Solesmes, que pense-t-il de ces hésitations ? Demandait le vieux prêtre. Don de Latte a des yeux qui rient et une bouche qui se plisse en une moue un peu dédaigneuse lorsqu'il écoute le récit de mes inconstances. Peut-être croit-il qu'il y a de la tentation dans mon cas, comme je l'ai cru moi-même longtemps. Et moi aussi, fit l'abbé Grévesin. Mais vous ne le pensez plus. Rappelez-vous combien nous avons imploré la Vierge de sous terre pour être éclairée. Et chaque fois que je retournais à Solesmes, l'impression était la même. Et encore, non, elle s'aggravait d'une aversion irraisonnée, d'un recul. Ce n'était à coup sûr ni un indice de vocation, ni une invite. Il y a bien, poursuivit Durtal après un silence, le terrible argument de quelque dur à cuire du bon Dieu. La raison vous atteste que la vie monastique est supérieure à toute autre existence. Il n'est point besoin d'en savoir plus. Cela suffit. Vous devez donc vous engager dans cette voie et avoir assez de volonté pour subir les désillusions qu'elle ménage et les sacrifices qu'elle exige. Évidemment, cette théorie est d'un étiage surélevé. Elle suppose une générosité exceptionnelle d'âme, un abandon complet de sa personne, une foi à toute épreuve, une fermeté de caractère et une endurance vraiment rare. Mais c'est se jeter à l'eau pour l'amour de Dieu et l'obliger ainsi à vous repêcher. C'est aussi placer la charrue avant les bœufs. C'est mettre notre Seigneur après et non avant. C'est nier la vocation, la touche divine, l'impulsion, l'attrait. C'est s'obéir sans entendre l'appel du Christ auquel on prétend infliger ses vues. Je ne m'y frotterai point. D'ailleurs, je n'ai point été menée par ma mère, la Vierge, de la sorte. Et vous n'avez pas tort de ne point vouloir tenter le Seigneur, dit l'abbé. Mais plaçons la question, s'il vous plaît, sur un autre terrain. Rien ne vous oblige à revêtir la robe de l'oblature et à vous séquestrer dans un cloître. Vous pouvez loger au dehors et suivre les offices. Je vous l'ai déjà déclaré, cette solution est la seule qui vous convienne. Vous avez franchi l'âge des leurs. Vous avez trop acquis l'habitude d'observer pour que le côte à côte continu des religieux vous soit bon. Vous discerneriez trop vite les déchets qu'ils décèlent. Vivez près d'eux et non chez eux. L'opinion du public sur les moines va d'un extrême à l'autre, et ces deux extrêmes sont aussi fous. Les uns se les imaginent selon une gravure en couleur que vous connaissez, joufflue et rebondie, tenant d'une main un pâté et serrant de l'autre, contre leur cœur, une bouteille clissée d'osier. Et rien n'est plus inexact, rien n'est plus bête. Les autres se les figurent angéliques, planant au-dessus du monde, et c'est non moins inexact et non moins bête. La vérité est qu'ils sont des hommes, valant mieux que la plupart des laïcs, mais enfin des hommes, soumis par conséquent à toutes les faiblesses, lorsqu'ils ne sont pas absolument des saints. Et dame ! Non, je reviens à mes moutons. La prudence consiste à adopter un moyen terme, à vous faire oblat, hors et dans les alentours du cloître, à Solesmes. À Solesmes, non, il n'y a pas une maison habitable à louer. L'abbé Plomb, qui y est allé, le sait. Du reste, Solesmes est un trou. L'existence sans la vie claustrale y serait horrible, car il n'y a même pas de promenade où l'on puisse vaguer l'été à l'ombre. Ajoutez que la ville la plus proche, Sablé, est un bourg de dernier acabit, et la lenteur des trains pour gagner de là Le Mans et Paris. Non, à Solesmes il n'y a pas de milieu, l'abbaye ou rien. Fixez-vous auprès d'un autre monastère, dans une contrée plus avenante et d'accès plus facile, en Bourgogne, par exemple, à ce Val des Saints dont vous a parlé l'abbé Plon. Dame, ce serait à voir. Et à la longue, cela avait fini par être vu. L'un des pères de cette abbaye était passé par Chartres et descendu chez l'abbé Plon, qu'il avait aussitôt abouché avec Durtal. Ils étaient façonnés pour s'entendre. Don Feltin était un moine de plus de 65 ans, mais si souple et si jeune. Grand et robuste, le sang à fleur de peau et piquant les joues, ainsi que des pelures d'abricots de points cramoisis. Le nez protubérant et remuant, lorsque le visage s'égayait du bout. Les yeux bleus et clairs et les lèvres fortes, ce religieux effluait autour de lui la piété tranquille, la joie de l'âme saine et renoncée, de l'âme qui sent bon. Plein d'enthousiasme pour son ordre, épris de liturgie et de mystique, il rêvait à des groupes d'oblats formant une communauté autour de la sienne. Il bondit pour ainsi dire sur Durtal, et toutes les questions se résolvaient comme par enchantement avec lui. Il y avait justement à louer, à compte avantageux, près du monastère, une maison agrémentée d'un vieux jardin. Et il vantait le côté paterne de son abbaye, la probité des offices, évidemment, disait-il. Vous ne retrouverez pas chez nous l'art raffiné de Solesmes. Nous n'avons pas un père moqueux pour diriger le chœur. Mais enfin, les messes sont tout de même bien chantées, et les cérémonies sont, vous le verrez, magnifiques. Enfin, à deux pas du Val des Saints, vous avez une ville pleine d'œuvres du Moyen-Âge et d'antiques églises, et une ville, ce qui ne gâte rien, très vivante et pourvue de toutes les ressources modernes, Dijon. Et Durtal, conquis par la rondeur de ce père, avait effectué une retraite de 15 jours dans son couvent, et, sur les conseils mêmes de l'abbé, il avait loué la maison et le jardin proche du cloître. Et l'existence y avait été en effet très douce. L'abbaye était familiale, et sans ce côté de foule et de sourde panique qui l'avait tant gêné à Solesmes. C'était un peu, au Val des Saints, l'excès contraire, la trop grande liberté laissée à chacun. Mais ce n'était pas à Durtal qui en profitait à se plaindre. Don Antime Bernard, l'abbé, était un vieillard de près de 80 ans, d'une sainteté reconnue, et, en dépit d'incessants tracas, d'une bienveillance attentive et d'une gaieté toujours neuve. Il accueillit Durtal à bras ouverts, lui déclara au bout d'un mois qu'il était chez lui au monastère. Et pour bien lui affirmer que cette assurance n'était pas vaine, il lui remit une clé de la clôture. Il est vrai qu'en dehors même de l'amitié qui le lia bientôt à quelques-uns des habitants de ce reclusage, Durtal pouvait se prévaloir de sa situation exceptionnelle de postulant, puis de novice oblat. Elle l'introduisait en effet de plein pied dans l'ordre dont il devait, lorsque le temps de sa probation serait terminé, faire partie. La question si obscure de l'oblature s'était en effet presque aussitôt posée. Mais, s'il ne l'avait pas clairement résolue, l'abbé l'avait au moins tranchée par une solution de simple bon sens. « Commencez votre noviciat, » avait-il dit à Durtal, « nous délibérerons après. Il sera d'un an et un jour, comme celui des moines. Vous suivrez pendant cette année les cours de liturgie de Don Feltin et serez assidu aux offices. D'ici là, nous aurons bien découvert des renseignements et des textes que vous étudierez vous-même avec le maître des novices. » Et Durtal ayant accepté cette combinaison, toutes les fêtes servaient de prétexte pour l'inviter à dîner au monastère. Le travail, les offices, les causeries, les recherches à la bibliothèque du cloître, qui contenait près de 30 000 volumes, l'occupaient suffisamment pour qu'il ne pût s'ennuyer. Puis, certains jours où l'existence lui paraissait un peu lourde, il prenait le train pour Dijon. D'autres fois, il se plaisait à rêvasser dans le jardin, dont une partie était restée, malgré les objurgations du jardinier, en friche. Et c'était une poussée d'herbes folles, de fleurs sauvages venues d'on ne sait où. Et Durtal s'amusait de ce fouillis de végétation, se bornant à arracher les orties et les ronces, les plantes hostiles, prêtes à étouffer les autres. Et il songeait au printemps, à élaguer tout de même une partie de ces intruses pour organiser à leur place un jardin liturgique et un petit clos médicinal, copié sur celui que Voilafrid Strabo avait autrefois planté dans les dépendances de son couvent. Une seule chose laissait à désirer dans la solitude de son refuge, le service. La mère Vergogna, une paysanne du hameau, sa bonne, était au-dessous de tout. Indolente et soifarde, elle aggravait la pitoyable qualité des comestibles par sa façon déréglée de les cuire. Elle ignorait la modération, opérait de telle sorte que l'on s'empêtrait les dents dans de la gélatine et qu'on se les ébranlait en mâchant du bois. Durtal avait adopté le parti ne pouvant faire autrement, d'ailleurs d'offrir au Seigneur, en expiation de ses vieux péchés, la pénitentielle misère de ses plats. Quand il apprenait par un télégramme la mort subite de l'abbé Grefsin. Il s'était jeté affolé dans le rapide pour Paris, avait de là gagné Chartres et revu une dernière fois sur son lit de mort l'homme qu'il avait peut-être le plus aimé. Il avait séjourné quelques jours dans cette ville et, voyant que l'abbé Plomb, un de leurs amis communs, ne pouvait recueillir la servante du défunt, Madame Bavoile, parce qu'il avait depuis 6 mois appelé sa tante auprès de lui pour diriger sa maison, il avait offert à la brave femme de l'emmener au Val des Saints en qualité de gouvernante et d'amie. Il était reparti de Chartres sans réponse précise, car elle ne savait à quoi se déterminer. Puis, quelques semaines après son retour en Bourgogne, il avait reçu une lettre d'elle lui annonçant son arrivée. Il était allé la chercher à la gare de Dijon. Il s'attendait bien à une descente de chemin de fer cocasse, car Madame Bavoile était dépourvue de tout préjugé en matière de toilette, et elle ne pouvait se rendre compte de l'étrangeté de son fourniment. Mais elle le stupéfia quand même lorsqu'il l'aperçut, s'agitant dans le cadre de la portière, coiffée d'un fabuleux bonnet à ruches noires et brandissant un parapluie couleur de cendre. Puis elle descendit du wagon, traînant après elle un cabas en tapisserie entre les deux pattes duquel passait le goulot décapsulé d'un litre. Et ce fut, au bagage, la risée des équipes, débarquant une malle bizarre qui tenait du buffet et du sarcophage, quelque chose de long et d'énorme, et aussi d'on ne sait quoi de velu, car lorsqu'on l'examinait de près, l'on constatait que des poils de porc se dressaient sur le couvercle, poussaient en de larges bandes dans les plaques fatiguées du bois. « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? » s'écria-t-il avec effroi. « Mais mon linge et mes effets, » répliqua-t-elle tranquillement. Et tandis qu'un peu honteux, il confiait ce ridicule monument aux employés de la gare, elle souffla, puisa dans sa poche un mouchoir grand comme une nappe et quadrillé sur un fond nankin de filet bistre, et elle épousta le crucifix de fer blanc qui ballottait au bout d'une chaîne sur son corsage. « Voulez-vous manger ou boire quelque chose ? Nous avons le temps, » proposa Durtal. « Vous plaisantez ?» Et elle avait extrait du cabas un croûton de pain et sorti son litre d'eau à moitié vide. « J'ai mangé et bu en route, en voici la preuve. » Et, placidement, elle s'était versé le reste de l'eau sur les mains qu'elle secouait à coups de bras sur le quai pour les sécher. « Maintenant, je suis à vous, mon ami, » avait-elle dit. Et Durtal s'en doutait, avec un peu d'ennui. L'arrivée au Val des Saints avait été bruyante. Les paysans regardaient, ébahis, sur le pas de leur porte, cette petite femme grêle et noire qui gesticulait et s'arrêtait pour embrasser les enfants, leur demander leur nom et leur âge, et les bénir, en leur dessinant avec le pouce une croix sur le front. Chapitre 2. Eh bien, madame Bavoile, vous n'êtes pas étonnée de vous trouver assise ici, à deux pas d'un cloître, avec moi ? Mais, mon ami, pourquoi serais-je étonnée ? Il y a longtemps que le lot des surprises ne se tire plus pour moi. Quand le cher abbé Gèvresin est mort, j'ai dit adieu. Faut-il demeurer à Chartres, retourner à Paris, ou aller rejoindre le brave Durtal qui m'offre un gîte ? Que vous en semble ? Puisque vous vous êtes constitué l'intendant des biens de ma pauvre âme, régissez-les à votre guise, et dirigez-moi sur ma nouvelle route sans trop d'à-coups. Cependant, si c'était un effet de votre bonté, mon diligent seigneur, je voudrais bien ne pas me dépiter en de longues attentes. Agissez donc, s'il vous plaît, vite, et vous voilà. Dame, sauf erreur, c'est la réponse que j'ai cru entendre, mais ce n'est point tout cela. Si je suis ici auprès de vous au Val des Saints, c'est pour m'occuper de votre ménage et vous servir. Causons donc un peu de ce pays, de la vie qu'on y mène, des ressources dont il dispose, pour organiser notre train-train et nous nourrir. Le village, vous l'avez vu, au sortir de la gare, il se compose d'une rue et de quelques chemins bordés de chaumines. Il contient d'environ 200 feux, possède une boutique de boucher, une de boulanger, une d'épicier débitant du tabac et de la mercerie. Telles sont les ressources. Les denrées s'y présentent, sinon onéreuses, au moins exécrables. Et il est nécessaire de se rendre pour s'approvisionner à Dijon toutes les semaines. D'ailleurs, la mère Vergogna, qui a préparé jusqu'à ce jour ma popote, vous renseignera mieux que moi sur le choix et le prix des comestibles. Elle viendra ce soir et vous pourrez à votre aise l'interroger. La maison n'est pas mal autant que je suis à même de la juger par un premier clin d'œil, et le jardin est spacieux et planté de beaux vieux arbres, reprit madame Bavoile après un silence. Tout est donc pour le mieux. Et vos bénédictins ? Ils habitent là, tenez, regardez par la fenêtre la longue rangée de croisées du monastère et le clocher de l'église. Vous ne tarderez point au reste à les connaître, car il est bien rare que l'un d'eux traverse le bourg sans passer par ici pour me serrer la main. Ce sont de pieuses gens dont la fréquentation est un réconfort. Ils sont nombreux ? Une cinquantaine, y compris les novices et les convers. Eh, notre ami, c'est une grande abbaye que ce couvent du Val des Saints. Oui, c'est l'une des plus importantes fondations qu'ait autrefois créée Solesmes. C'est le grand cloître de la Bourgogne. Son origine est ancienne ? Oui, il y eut en ce lieu un prieuré, dépendant de cette illustre abbaye de Saint-Seine, située à peu près de 5 lieues de Dijon, et dont les bâtiments réparés, ou plutôt changés de fond en comble, se sont mués en des usines d'hydrothérapie et des entrepôts de malades qu'on douche. Saint-Seine, qui fut institué en 534 par le saint de ce nom, a compté parmi ses religieux Saint-Benoît d'Agnan, le réformateur de l'ordre de Saint-Benoît au IXe siècle. Son prieuré du Val des Saints fut florissant. Il subsistait encore à l'époque de la Révolution, mais il traînait une piété languissante et achevait d'égoutter une vie sans gloire. Il disparut dans la tourmente. Il a été exhumé il y a une trentaine d'années seulement. Dont Guéranger, l'abbé de Solesmes, auquel on donna ses ruines, les réédifia et les peupla de moines, et de minuscule prieuré qu'il était à ses débuts, il devint une puissante abbaye. Et l'ami de l'abbé Plon, celui qui est venu nous voir à Chartres, dont je ne sais quoi. Ah, je n'ai pas la mémoire des noms. Dont Feltin. C'est cela même. Est-il ici ? Oui, il est le maître des novices. Je serai contente de le saluer. Vous le reverrez, je lui annoncerai votre arrivée. Alors, comme société, vous avez celle des moines, et en dehors d'eux ? En dehors d'eux, dame, c'est plutôt court. Il y a dans ce bourg un vieux garçon très bizarre et un peu bourru, mais bon homme, monsieur Lempre. Il habite une assez belle maison contiguë au monastère. Il daube sans arrêt sur les bénédictins qu'il adore. Mais c'est une affaire de mots. Lorsqu'il dit d'un père « c'est une pieuse brute », il faut traduire « c'est un religieux dont les idées ne concordent pas absolument avec les siennes ». Le tout est de s'entendre. Comment les moines le fréquentent-ils ? Ils le connaissent et savent que personne ne leur est plus dévoué. Il l'a prouvé et maintes fois. D'abord en les gratifiant de l'abbaye dont il était le possesseur, puis en s'allégeant à leur profit, lorsqu'ils subissaient des moments difficiles, d'imposantes sommes. La vérité est qu'il rêve d'une perfection idéale qui ne peut exister, et le côté humain que chaque cénobite garde forcément l'irrite. Il n'en est pas moins, malgré ce travers, un chrétien serviable et pieux. Il est fort savant, d'ailleurs, sur les us et coutumes monastiques, et il possède une bibliothèque spéciale de monographies conventuelles, et surtout une collection d'enluminures des plus rares. En dehors de ce laïc, le seul qu'on en ait plaisir à visiter, il y a une oblate, Mademoiselle de Garambois, qui est bien la plus charitable des créatures et la plus indulgente des vieilles filles. Elle recèle dans un corps de grosse dame un peu mûre une âme toute jeune, une âme toute blanche de petit enfant. On rit un tantinet d'elle dans le village et dans l'abbaye, à cause de sa manie de porter sur sa toilette les couleurs liturgiques du jour. Elle est un ordo vivant, un calendrier qui marche. Elle est le fanion du régiment. On sait qu'on va célébrer la fête d'un martyr lorsqu'elle pavoise son chapeau de rouge, ou celle d'un confesseur lorsqu'elle arbore les rubans blancs. Malheureusement, le nombre des teintes ecclésiales est restreint, et elle le déplore assez pour qu'on la raille. Mais tout le monde est d'accord pour admirer sa candide belle humeur et son infatigable bonté. Vous la verrez, et ne serez pas longue à discerner ces deux ardentes toquades, la fine cuisine et les offices. Elle raffole des fastes liturgiques et des petits plats. Sur ces matières, elle en remontrerait au plus érudit des maîtres queux et au plus studieux des moines. Dites donc, notre amie, elle n'est pas banale, votre oblate. Et ce qu'elle aime, c'est bénédictin. Elle eut jadis la vocation d'une moniale et elle fit son noviciat à l'abbaye de Sainte-Cécile de Solesmes. Mais avant de la terminer, elle tomba malade et dut, sur l'ordre du médecin, l'abandonner. Elle se console maintenant en vivant dans les environs d'un cloître. La moniale desséchée a reverdi oblate. Mais pour comprendre ainsi la liturgie, elle doit être savante. Elle sait le latin, elle l'a appris pendant son noviciat à Solesmes, et elle l'a, je crois, travaillé depuis. Mais, sortie des traités sur le plein chant et l'office divin, rien ne l'intéresse. Elle jubile pourtant, ainsi que je vous l'ai raconté, lorsqu'il s'agit d'une savoureuse cuisine. Alors, elle est le cordon bleu conventuel, la mère de blé mûr du fourneau. Elle peut aussi bien réciter les recettes de manuels culinaires que les antiennes du psautier. Pourquoi ne réside-t-elle pas dans ce Solesmes où elle a commencé son noviciat ? Parce qu'elle n'a, ainsi que moi, déniché aucune location dans ce bourg. Et puis elle est la nièce de M. Lempre, de ce vieil original dont je vous ai parlé. Il est le seul parent qui lui reste, et elle est venue se fixer auprès de lui et du monastère. Et ils habitent la même maison ? Non, ils ont beau se choyer, ils se dévoreraient s'ils vivaient constamment côte à côte. Je vous laisse à penser d'ailleurs si elle échange des coups de bec et d'ongles avec lui lorsqu'il médit de ses chers moines. Excepté ces deux personnes, nul, je le répète, n'est à fréquenter dans ce trou. Les paysans sont cupides et retors, et quant aux gourdes armoriées, aux noblaillons qui croupissent dans les châteaux des alentours, ils sont certainement, au point de vue intellectuel, encore inférieurs aux rustres. On se salue lorsqu'on se rencontre, et c'est tout. Et comment sont-ils avec le monastère ? Mal, ils l'exècrent pour des causes qui, si elles ne sont pas héroïques, sont bien humaines. D'abord, les bénédictins régissent ici la paroisse. Autrement dit, le curé est un des religieux de l'abbaye. l'église du Val des Saints est à la fois abbatiale et paroissiale. Or, le père curé ne peut accepter les invitations des châtelains et parader dans leur salon, comme le pourrait faire un prêtre plus libre. Les hobereaux n'ont donc pas de desservant qui soit à eux, sur lequel leurs femmes puissent mettre la main mise et diriger au mieux de leurs propres intérêts. Premier grief. Ensuite, parmi les seigneurs du lieu, figure une impérieuse baderne, plus ou moins blasonnée, qui aime à chanter les morceaux d'opéra ajustés par les scélérats de la piété, au culte. À diverses reprises, ce baron des atours a tenté d'obtenir, au moment du mois de Marie, la permission de roucouler ses falibourdes dans l'église. Les moines l'ont naturellement rabroué, la musique des sous-gounauds et des sous-massenets n'étant pas encore, Dieu merci, admise dans les cloîtres. Alors ses amis ont pris fait et cause pour lui, et ils ne pardonneront jamais à l'abbaye d'avoir empêché ladite baderne de souiller avec le filet saumâtre de sa voix les murs du sanctuaire. Second grief. Et celui-là n'est pas le moindre. Eh bien, ils sont de jolis cocos, vos nobles. Ce sont des coulis d'imbécilité, des sublimés de sottises. Nous sommes en province, madame Bavoile. Et les paysans sont-ils aussi mal disposés pour le couvent? Ils vivent de lui, ils en reçoivent des bienfaits, et par conséquent, ils le haïssent. Mais c'est un pays de brigands dans lequel vous m'avez emmené. Non, répondit en riant Durtal, il n'y a pas de brigands au Val des Saints, mais des parangons de vanité et des modèles de bêtises. Après tout, c'est peut-être pis. Mais vous n'avez qu'à m'imiter, à refuser absolument de les connaître, et vous aurez la paix. « Qu'est-ce qui sonne là ?» interrogea madame Bavoile, qui écoutait le tintement prolongé d'une cloche. « Ce sont les premiers coups des vêpres. Il doit être 4h10, plus 1 minute, » fit Durtal, qui consulta sa montre. « Nous allons aux vêpres ?»« Certainement, d'autant que ce sont celles de l'exaltation de la Sainte Croix, ce soir. » »« Alors je vais voir, pour mon début, un bel office ?»« Voir, non. Entendre, oui. » Cette fête est un double majeur et ne comporte pas le luxe que vous pourrez admirer au double de première classe, à Noël par exemple. Mais si vous n'assistez pas à une magnifique cérémonie se déroulant dans les méandres enflammés du cœur, vous écouterez au moins un office splendidement composé, avec ses merveilleuses antiennes et son hymne brûlante, teinte de sang. Ils étaient arrivés en devisant devant l'église. « Oh, mais elle est antique !» s'exclama madame Bavoile en regardant le porche qui arborait le ton de la pierre ponce et se fleurissait de mousse, couleur d'or piment et de laque verte. « Oui, le clocher et le porche sont du 15e siècle, mais tout le reste de l'église est neuf. » L'intérieur a été reconstitué tant bien que mal, enlaidi par un affreux chemin de croix, éclairé sauf le fond par des vitres blanches. L'église du Val des Saints n'est plus qu'un souvenir inexact de ce qu'elle fut dans sa jeunesse. Cependant, l'abside avec ses anciennes stalles qui proviennent d'une autre abbaye et son autel qui, bien que moderne, est habile, n'est pas trop offensante. Jugez-en. Ils entrèrent. La nef s'étendait, assez vaste, sans piliers, écartelée d'un transept contenant d'un côté une chapelle de la Sainte Vierge, de l'autre une chapelle de Saint-Joseph. Elle était mal éclairée, presque noire. Au bout, deux rangs de stalles s'allongeaient, à droite et à gauche du sanctuaire, allant à partir de la table de communion jusqu'à l'autel en pierre, de forme gothique, qui se détachait sur un mur peint en trompe-l'œil d'un rideau brun. Des vitraux modernes dressaient dans le haut de ce mur leurs lames droites de verre, enduites de personnages dont les nuances étaient à la fois criardes et molles. L'on discernait, lorsque le temps n'était pas trop couvert, notre Seigneur et sa mère, habillés d'étoffes tubulaires d'un rouge acide de groseille et d'un bleu de Prusse dur, puis Saint Bénigne de Dijon, coiffé d'un pain de sucre couleur de potiron et affublé d'une chasuble oseille. Saint Bernard, enveloppé dans un manteau de blanc sale d'eau de riz. Saint Benoît, Saint Odilon de Cluny, Sainte Scolastique et Sainte Gertrude, vêtus de coule d'un noir de résiné sec. Cela avait été teint et cuit il y avait une vingtaine d'années par un Lavergne quelconque. Madame Bavoil, que ses affronts de la vue ne suppliciaient point, s'agenouilla, quand elle eut achevé son inspection, sur une chaise, tira d'un énorme porte-lunette des besicles rondes et se prit à lire dans un volume encombré d'images qu'elle baisa. Les cloches tintèrent assez longuement puis se turent, et quelques minutes après, 4 heures sonnèrent, et elles retentirent encore. Un bruit martelé de pas se fit entendre sous la dernière volée des sons. Madame Bavoil tourna la tête. Par une porte située au fond de l'église, les moines entraient, 2 par 2, derrière l'abbé, seul, reconnaissable à sa croix pectorale d'or. Et ils montaient les quelques marches du chœur, devant la barre de communion, s'agenouillaient par couple devant l'autel, puis après s'être relevés, se saluaient et gagnaient leur place, l'un à gauche du côté de l'évangile, l'autre à droite du côté de l'épître. Et tous, à genoux alors, se signaient le front et les lèvres, se redressaient à un petit coup frappé par le père abbé sur son pupitre, et, courbés en deux, attendaient un nouveau coup pour commencer l'office. None se déroula, simplement psalmodié, et lorsque les moines eurent terminé, ils restèrent debout, inclinés encore, en silence, jusqu'à ce que l'abbé eût donné le signal d'entonner vêpres. Les psaumes étaient ceux des dimanches, si fréquents dans la liturgie des autres jours, que Durtal les savait forcément par cœur. L'intérêt reprenait surtout pour lui aux antiennes, aux répons brefs et à l'hymne. Mais ce soir-là, il rêvait non pas au loin de l'office, puisque l'office était la cause même de ses songeries, mais dans ses alentours. Il se répétait l'histoire de cette exaltation de la croix qu'il avait lue le matin dans les légendes du Moyen-Âge. Et c'était d'abord la confuse évocation d'une indécise Asie, grimaçante et quasi folle. Puis la vision se précisait, s'arrêtait sur le ravisseur du gibet sacré, sur l'étonnant Khosroès qui, au 7e siècle, envahit le territoire de la Syrie, prit d'assaut Jérusalem, qu'il pilla, s'empara du grand prêtre Zacharie et, triomphalement, ramena dans son royaume de Perse le bois de la vraie croix laissée par sainte Hélène au lieu même où le Christ avait souffert. Une fois rentré dans ses états, l'orgueil démesuré de cet homme fit explosion. Il voulut être adoré comme le Seigneur, et il décréta tranquillement qu'il n'était ni plus ni moins que Dieu le Père. Pour s'appliquer tout entier à ce nouveau rôle, il abdiqua la souveraineté entre les mains de son fils, construisit une tour dont les murailles extérieures furent revêtues de plaques d'or, et il s'y enferma au rez-de-chaussée, en une étrange salle cloisonnée de métaux précieux et incrustée de gemmes. Puis il voulut, ainsi que le Tout-Puissant, avoir son firmament à lui, et le plafond s'éleva à des hauteurs vertigineuses et s'éclaira le jour par un soleil savamment exercé, la nuit par une habile lune autour de laquelle pétillèrent les feux colorés des étoiles feintes. Ce ne fut pas assez. Ce ciel immuable, machiné par des centaines d'esclaves, le lassa. Il exigea les intempéries, les ondées, les orages des véritables saisons, et il installa, au sommet de la tour, des appareils hydrauliques qui purent à volonté distribuer la pluie fine des temps qui se gâtent, les rafales d'eau des trombes, les gouttes amicales des soirs d'été. Il fit également apprêter des jets de foudre et de pesants chariots roulèrent dans les souterrains de la tour sur des pavés métalliques et ébranlèrent du bruit de leur tonnerre les murs. Alors il se crut l'indiscutable sosie du Père, et au fond de ce puits lamé d'or et ponctué de pierreries, fermé par la coupole d'un firmament de théâtre, il siégea à demeure sur un trône,
à la droite duquel il planta la croix du Sauveur, tandis qu'il huchait à gauche sur la pyramide d'un fumier en filigrane d'argent bruni, un coq. Il entendait représenter de la sorte le Fils et le Saint-Esprit. Et ses anciens sujets défilèrent devant cette idole peinte et tiarée, immobile dans son manteau d'or, dardant des étincelles de toutes ces gemmes qu'embrasaient des rayons lumineux des faux astres, fulgurant, incombustible dans ce brasier de murs et d'étoffes tout en lueur. On se figure, entre la croix et le coq, sous la mitre en flamme, la tête parcheminée, crevassée de rides ravinant le front et les joues sous l'enduit des pattes, la barbe hannée et nattée, les yeux creux et déserts, vivant seul en cette statue d'or, adulée par les prières qui montaient autour d'elle, dans les étourdissantes vapeurs des olibans, les prières qui invoquaient au nom de Jésus, Dieu le Père. Cette mascarade dura combien de temps ? 14 ans, dit la légende. Toujours est-il qu'à un moment, l'empereur Héraclius parvint à réunir une immense armée et partit à la recherche de la Sainte Croix. Il rencontra près du Danube les troupes du ravisseur, défit en combat singulier son fils et rejoignit en Perse le vieux monarque dans sa tour. Chosroès ignorait que son fils eût été vaincu, car tous le haïssaient et personne n'osait lui annoncer la nouvelle. Il faillit trépasser de rage lorsqu'il vit entrer, suivi de sa cour, l'empereur Héraclius, qui, l'épée à la main, lui dit « Roi, tu as, malgré tout, honoré à ta manière le bois du Christ. Si donc tu consens à avouer que tu n'es qu'un homme et que tu n'es par conséquent que le très humble serviteur du Très-Haut, tu auras la vie sauve. Je reprendrai simplement la croix de notre Rédempteur et te permettrai de régner sur tes peuples en paix. Par contre, si tu refuses ces conditions, mal t'échera, car aussitôt je te tuerai. » En l'écoutant, les yeux de Chosroès flambèrent, rouges comme les prunelles nocturnes des vieux loups, et il se dressa pour maudire son adversaire et rejeter avec mépris ses offres. Alors, d'un revers de l'âme, l'empereur décolla le vieillard, et la tête vola et rebondit sur les dalles, se balança un instant sur la nuque, hocha, ainsi que pour répondre encore non, et finalement s'inclina tout d'un côté, et les yeux s'éteignirent, tandis que la momie d'or tombait, versant par le trou ouvert du col, de même que par une bonde débouchée de tonnes, des flots de sang. Et Héraclius fit ensevelir le souverain et détruisit sa tour. Gloria patri et filio et spiritu sancto.